Depuis 46 ans, le Festival de Saint-Céré s'impose comme l'un des grands rendez-vous culturels de l'été en Occitanie. Fidèle à son identité, il conjugue patrimoine et création en faisant dialoguer les grandes œuvres du répertoire avec les artistes d'aujourd'hui. Porté par le théâtre de l'usine Scénographe, le festival affirme chaque année une ambition forte: accompagner la création artistique, soutenir les nouvelles écritures et rendre la culture accessible au plus grand nombre. Cette 46e édition, placée sous le signe de la voix, illustre pleinement cette démarche en offrant une place importante aux œuvres contemporaines et aux créations inédites. C'est dans ce contexte qu'aura lieu la première mondiale de L'Amour la mer, un programme imaginé par l'ensemble Les Illuminations avec le baryton Stéphane Degout. Au cœur de cette soirée, deux œuvres dialoguent à plus d'un siècle de distance: le poème De l'amour et de la mer d'Ernest Chausson, dans une transcription de Franck Villard pour baryton et quintette avec piano, et Un jour les étoiles, une création du compositeur Othman Louati sur un texte coécrit par Aurélie Alexandre Dalbron et Isabelle Junca. Pour évoquer cette aventure artistique, nous recevons aujourd'hui Aurélie Alexandre Dalbron, violoncelliste diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Elle s'est perfectionnée à Leipzig avant de collaborer depuis plus de 10 ans avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. En 2022, elle fonde l'ensemble Les Illuminations avec une conviction: faire dialoguer musique, littérature et poésie dans des formes nouvelles où les chefs-d'œuvre du patrimoine nourrissent la création contemporaine. Bonjour Aurélie Alexandre Dalbron.
Bonjour.
Alors, première question, revenant sur L'amour la mer, avant de parler de musique, j'aimerais revenir au commencement. Est-ce que vous vous souvenez du moment où cette idée est née? Quelle a été la première personne ou le premier geste à l'origine du projet? Une musique, un texte, une envie, une rencontre peut-être?
C'est une très bonne question et c'est vrai que souvent, quand je conçois des projets, c'est plutôt une accumulation de rencontres et artistiques et d'œuvres, c'est-à-dire artistiques humaines aussi. Je connaissais, comme je pense beaucoup d'interprètes aujourd'hui, le poème De l'amour et de la mer de Chausson, qui est pour moi vraiment un chef-d'œuvre de la musique française, de notre patrimoine, que vraiment c'est une œuvre qui me touche, que je trouve vraiment sublime, à la fois dans sa pudeur et dans sa force d'expression, cette idée vraiment d'être à la fois dans la retenue et d'exprimer tant de choses. Et c'est vrai que c'est une œuvre qui restait dans un coin de ma tête, on peut dire ça comme ça. Et on a voulu monter un premier projet avec Stéphane autour de cette même œuvre. Et finalement, le projet ne s'est pas fait pour des raisons de calendrier, comme ça peut arriver. Donc c'était il y a 3 ans, peut-être 2 ans, je ne me rappelle plus exactement. Et l'année dernière, donc, on a sorti avec Isabelle Un jour les étoiles aux éditions Almanach. Donc il est sorti il y a un peu plus d'un an. Et en fait... le fait que ce texte soit sorti, j'ai eu une sorte de déclic. Je me suis dit, mais on va faire dialoguer ce texte qui parle à la fois, c'est un sujet un petit peu différent. Voilà, le poème De l'amour et de la mer, c'est Maurice Bouchard, c'est vraiment une écriture ancrée dans son temps, on va dire. Mmh. Et Un jour les étoiles, c'est une méditation sur la création, c'est une méditation sur le rapport au temps. C'est 24 heures de la vie d'un poète qui est découpé en 12 tableaux de 2 heures. Donc avec des souvenirs qui ressurgissent, il y a cette méditation sur ce qu'est la création. Évidemment, il y a l'amour, parce que ça fait partie de notre essence humaine. J'ai pensé à Othman, c'est un compositeur et un ami que je connais depuis assez longtemps. Mmh. On a déjà collaboré ensemble et tout s'est un peu aligné comme ça. Je me suis dit, mais on va faire ce projet et il va y avoir deux pans, une réponse, un écho. En fait, c'est vraiment l'idée de tisser comme ça avec cette œuvre du grand répertoire qui existe et une création d'aujourd'hui. Donc c'est à la fois, je me souviens... je ne peux pas vous citer un événement précis, mais ça s'est construit vraiment au fur et à mesure. Et c'est un peu comme ça que tous nos projets avec les Illuminations naissent. C'est des intuitions humaines. Et je me dis, tiens, on va faire ça comme ça et on verra ce qui se passe.
Vous faites un lien. Et après cette création vient le projet fini. Et là vient à l'esprit la question: où est-ce qu'on va aller pour le présenter? Pourquoi avoir choisi le Festival de Saint-Céré pour cette création mondiale? Qu'offre ce festival qu'un autre lieu ne pourrait peut-être pas offrir?
Ah ben c'est une question voilà qui est assez pertinente, effectivement. Je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi le festival Sancerré ou si c'est l'inverse. On a déjà une longue histoire avec ce festival. Je suis venue jouer en soliste il y a quoi, 4 ou 5 ans. C'était ma première fois là-bas. C'était pendant le temps du Covid. C'était un moment très, très particulier. Et je me souviens de moments très, très, très forts où voilà, j'étais toute seule parce que il y avait toutes les restrictions liées à la pandémie, etc. Donc, on pouvait pas jouer. C'est un moment très particulier et l'écoute aussi des spectateurs, ça m'avait beaucoup marqué, ça m'avait beaucoup touché aussi. Et voilà, la confiance renouvelée du festival et aussi en saison avec le scénographe. On a créé un spectacle jeune public, le Carnaval de Toumaï en 2024. Et voilà, on est revenu en nocturne de violoncelle avec les illuminations aussi, faire dialoguer Messager de Boulez avec des œuvres de Villa-Lobos, de Bach, de Parc, enfin de plein plein d'autres compositeurs. Et voilà, à chaque fois en fait c'était des moments assez magiques, je dois dire. Au couvent de Gramat, on était en résidence avec les violoncellistes et c'était vraiment magique dans cet univers un peu hors du monde. Et ce que je voilà, c'est assez émouvant aussi de se dire que dans moins d'une semaine sera donnée la première fois sera donnée à entendre cette œuvre. Donc c'est très fort et pour moi, le festival de Saint-Céré, souvent dans des lieux en plein air, ça crée aussi un autre rapport avec le public,
Tout à
un
fait.
rapport aussi très spontané après le concert, dans les échanges qu'il peut y avoir. Et c'est pour moi, c'est un festival qui ressemble à aucun autre aussi par ce cadre-là, c'est-à-dire que d'avoir autant de sublimes châteaux à portée de pas de main, mais de voiture, c'est assez peu commun. Et du coup, chaque cadre assez unique, je trouve que ça crée aussi une autre sorte d'écoute. On peut dire, voilà, le plein air, c'est aussi parfois un petit peu dangereux, mais en tout cas, ça, pour nous,
Y a
il y a
plus
des
d'aléas.
aléas, voilà, et sur la météo, et sur les potentiels compagnons musicaux qui peuvent nous rejoindre, comme les oiseaux, etc. Ben, on les accueille comme ils sont, et en plus, là, on va capter cette première justement parce que c'est un lieu incroyable et il adviendra ce qu'adviendra ce jour-là. Mais c'est vrai que ça crée des conditions qu'on ne retrouve pas dans une salle de concert normale. Et je trouve aussi que le public à Saint-Céré, qui est toujours venu nous écouter avec voilà, grande chaleur et avec des réactions qui sont très spontanées, c'est aussi très important pour nous. Parce qu'en fait, venir jouer, saluer et s'en aller, c'est super, mais au final. Nous aussi, on aime bien, en fait, voilà, discuter et partager, en fait, ce
Tout
qui
à
s'est
fait.
passé sur scène. Et c'est très important. Donc, on est vraiment très content de donner cette première mondiale à la française.
Vrai que Saint-Céré, c'est
Il
un
est clair.
festival où les artistes prennent le temps de créer, de répéter, de rencontrer le public après les représentations. C'est cette dimension humaine qui change quelque chose à la naissance d'une œuvre pour vous?
Exactement. Ben, en fait, pour moi, tout est relation humaine. C'est-à-dire que dans mon travail, moi, ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, je dirais pas plus que le résultat, puisque le résultat, évidemment, c'est toujours un moment particulier, hein, très, très fort, mais c'est le processus. En fait, c'est des échanges humains et artistiques qui se passent, bah, en fait, pendant la genèse, la création, la recherche aussi, les doutes et tous ces moments-là qui sont
Bien sûr.
bah, inhérents à notre nature. Et au final, quand on vient offrir, parce que pour moi, le concert, c'est vraiment un don, tout ce travail, après, ça peut aussi ne pas plaire, mais avoir le droit de déplaire, et c'est un des droits fondamentaux des artistes, parce que de toute façon, plaire à tout le monde,
C'est
c'est ne plaire
subjectif.
à personne. Voilà. Et donc, au final, d'avoir une réaction à chaud, même un petit peu franche, etc., en fait, là, on peut commencer à discuter, et c'est aussi c'est ce qui donne du sens à notre pratique. Moi, pour moi, c'est vraiment fondamental, ça.
On va y revenir bien sûr sur le processus de création, mais j'aimerais bien parler du dialogue. Vous faites dialoguer deux œuvres séparées par plus d'un siècle, le poème de l'amour et de la mer d'Ernest Chausson et une création totalement contemporaine. Qu'est-ce qui relie selon vous ces deux partitions au-delà du temps?
C'est une question qui touche juste parce que le maître mot de l'ensemble des illuminations, bah, c'est vraiment le mot dialogue. C'est le dialogue entre les mots et la musique, entre la littérature, le signifié, c'est vraiment ce qui porte le sens, et bah, la musique, les notes qui sont, comme on dit, porteuses d'un sens qui peut toucher directement l'âme mais qui n'a pas de signifié. Et moi, ce qui m'interpelle et ce qui meut ma démarche aussi, parce que je suis par ailleurs poétesse, donc j'ai aussi ça en moi dans mon parcours de façon très très forte, c'est comment on va faire dialoguer ces deux formes d'expression artistique. Donc il y a ce dialogue-là entre les mots et la musique, et après il y a le dialogue entre les répertoires. Et en fait, créer des ponts comme ça avec des œuvres qui ont été créées, enfin qui existent, qui peuvent parfois, ça peut être un siècle, ça peut être parfois même 3, 4 siècles. J'aime bien faire des ponts, des anachronismes aussi parfois, en sautant comme ça plusieurs siècles. J'ai construit des programmes où on va passer de la musique baroque à la musique contemporaine et on va revenir à la musique baroque et sans même applaudissement entre les œuvres. La création contemporaine, c'est de la musique en fait aussi comme c'est une musique qui peut toucher la sensibilité, qui touche l'âme aussi et qui a chaque compositeur, chaque compositrice aujourd'hui a son langage propre. C'est-à-dire que la musique contemporaine, ça n'existe pas en fait. Ce sont les musiques d'aujourd'hui, c'est la création. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, ça peut toucher, ça peut ne pas toucher. Mais moi, je pense que quand il y a la sincérité d'un geste et d'une équipe artistique, à un endroit, ça va toucher. Pour moi, voilà, l'œuvre de Chausson qui, moi, me bouleverse, et d'ailleurs toute l'équipe est de mon avis, et la création d'Hautmann, c'est la même chose, évidemment à un endroit différent, et cette idée d'être un peu à fleur de peau comme ça et d'émotion, c'est un peu ça... ce pont-là que je fais.
Et on parle souvent de patrimoine et de création comme deux mondes distincts. Vous
oui,
semblez défendre exactement l'inverse.
Exactement. Pour moi, le patrimoine s'élabore, se construit en temps réel. Et c'est aussi notre devoir, notre mission, si je puis m'exprimer ainsi, d'artiste, d'interprète aujourd'hui, de donner à entendre ça. Parce que les œuvres qui sont les chefs-d'œuvre d'aujourd'hui, donc dit de notre patrimoine, à l'époque, très très souvent, elles ont été décriées, elles ont été malmenées, elles ont été méprisées même. Et donc, mais il y avait une réaction, en fait, il y avait quelque chose de très fort. Parce que finalement, on le sait bien, la haine n'est que le versant de l'amour, on va dire. Donc c'est une réaction passionnelle. Et par contre, l'indifférence morbide à tout ce qui est nouveauté ou création ou la peur, finalement, c'est ça qui peut tuer. L'art. Enfin, moi, je pense que l'art ne mourra jamais, mais je veux dire, il faut donner à entendre ces choses. Il faut se battre pour que ça ait lieu. Et donc, c'est le patrimoine de demain aussi qu'on co-construit. Et après, évidemment, la grande hache du temps fera son office.
Bien sûr.
Et ceci ne nous concerne plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est voilà, moi, je me vois comme une interprète. Je suis aussi, voilà, je dirige un ensemble, donc évidemment j'ai d'autres rôles et j'écris aussi, donc j'ai un recul, on va dire, par rapport à ma pratique, mais pour moi c'est une des choses les plus importantes, c'est de défendre la création et aussi de casser des idées reçues et des peurs que je ne juge pas, parce qu'en fait elles existent, elles sont comme ça, mais vous voyez, avec toutes les expériences qu'on a eues là avec l'ensemble depuis 4 ans qu'on fait des projets, eh ben, jamais personne ne nous a dit qu'il regrettait d'être venu à notre concert. Voilà. Comme ça, je pourrais dire les choses.
À partir du moment où vous faites naître une émotion chez quelqu'un, vous avez réussi votre mission d'artiste.
Exactement. Quelle que soit l'émotion. Moi, je me dis toujours, si j'ai déplacé 2 atomes dans la personne en face, eh ben, c'est gagné.
C'est gagné. Et c'est vrai que le public découvre souvent une œuvre une fois qu'elle est achevée. Pourtant, la création est un long chemin. Alors, comment on fait naître une œuvre aujourd'hui? Dites-nous à quoi ça ressemble les premières semaines de travail.
Ça, c'est une bonne question. Souvent, les premières semaines de travail, elles sont sur table, vous voyez, parce qu'on a... d'abord, avec Hautmann, on a extrait du livre donc, dont je vous ai parlé, on a extrait un livret, parce que le texte en lui-même n'était pas du tout, il était beaucoup trop long, et il n'était pas, vous voyez, pour des questions de prosodie, parfois la poésie, c'est un peu contre-productif, parce que vous avez le verbe qui est à 3 lignes plus loin, vous avez des jeux de mots qui ne passent absolument pas à la voix, donc il a fallu évidemment trancher, et on l'a fait en étroite collaboration. Ensuite, il y a eu des échanges aussi avec Stéphane, bien sûr. Et en fait, des échanges, ça a pris presque 1 an, finalement, ce travail. Hautmann a écrit de son côté, nous a envoyé au fur et à mesure ses partitions. Et donc là, il y a eu un travail qu'on a fait chacun de notre côté, en recevant la partition, en envoyant plein de vocaux WhatsApp à Hautmann pour me dire « Et ça, est-ce que si, est-ce qu'on ne ferait pas plutôt comme ça ?» Donc c'est vraiment un échange, des questions sur la notation. C'est d'ailleurs vraiment passionnant. Et ensuite, on a répété tous ensemble, on a enregistré, on s'est écouté, on a recommencé. Donc c'est vraiment un travail où quand on ouvre, voilà, on joue pour la première fois, on pouvait sentir l'esprit. Évidemment, après, il a fallu affûter, affiner, ciseler en fait cette musique-là. Et au final, là, on ne s'est pas vu depuis quelques temps, évidemment, puisqu'on était par Mons et par Vaux avec les festivals. Et ce sera encore différent. Cette première va avoir lieu. Et évidemment, au fil des mois, parce qu'on va la rejouer et on aimerait bien l'enregistrer aussi l'année prochaine, en fait, au fil des occurrences de, voilà, de jeu, et ben après, l'œuvre aussi se peaufine, change, elle, voilà, elle évolue aussi, et ça, c'est normal.
La création ne s'arrête pas à partir du moment où vous le présentez, elle continue même après, elle se
Exactement,
peaufine,
exactement, exactement.
elle a une vie propre. Alors dans cette aventure-là, vous êtes à la fois musicienne, directrice artistique et co-autrice du livret. Est-ce que l'écriture du texte influence votre manière de penser la musique ou est-ce que c'est la musique qui appelle les mots?
Ah, c'est, vous savez, il y a des questions. Effectivement, c'est une place assez délicate qui est la mienne dans ce projet, parce que je suis évidemment investie, on va dire, émotionnellement, sur le texte. Voilà, je suis évidemment touchée par la musique qu'a écrit Hauptmann, et à la fois, il faut que je joue ma partie en pensant à la globalité. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est très clair que chaque chose doit être à son endroit, c'est-à-dire que ce que je ressens, etc., ça doit être au service de l'objet final. Vous savez, souvent, quand on crée quelque chose, et je pense que c'est la même chose avec quand on écrit de la musique, quand j'écris des mots, voilà, de la poésie, mais une fois que vous l'avez écrite, en fait, ça s'éloigne tellement de vous, en fait, ça devient, enfin, l'œuvre vous échappe totalement. Et donc, elle est,
Elle a sa
en fait,
propre existence.
elle a sa propre existence, et en fait, vous devez la lâcher. Vous devez la lâcher parce que sinon, en fait, il y a quelque chose qui bloque. Et là, l'idée, c'est d'inviter, en fait, un autre imaginaire, donc celui d'Hauptmann, d'investir ces mots-là. Et donc, en fait, moi, je considère que à ce moment-là, je prends plutôt ma place de directrice artistique et de violoncelliste, et je lui laisse, en fait, la place, parce que sinon, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas aligné.
Alors, vous avez fondé les Illuminations avec l'envie de faire dialoguer musique, littérature et poésie. Avez-vous le sentiment qu'il manquait cet espace dans le paysage musical actuel?
Ben, on peut dire que, en fait, pour retracer les choses, voilà, moi j'ai toujours écrit, j'ai toujours joué du violoncelle, et j'ai aussi très très longtemps été tiraillée par, ben, en fait, par ces deux pôles en moi, sans trop savoir quelle place donner à quoi. Et en observant aussi ce qui se faisait à ma sortie du conservatoire, j'ai pas trouvé, en fait, un endroit qui correspondait à ça. Aussi dans mon exigence et le désir de faire de la création. Et je me suis dit, au lieu de dire que bah, ça va pas, il faut faire quelque chose.
Il y a
Parce que
trop de
c'est ça qui
frontières.
veut dire.
Il fallait
Ben, oui,
rassembler.
ben, en fait, on est aussi dans un peu quand même dans un pays qui aime bien mettre des cases, voilà, qui dit ça, vous êtes ci, vous êtes ça, vous faites ci, vous faites ça. Et du coup, il n'y avait pas de case pour moi, donc j'en ai créé une, voilà. Et c'est effectivement les illuminations, notre démarche, elle est unique, elle est singulière, mais comme aussi beaucoup d'autres ensembles indépendants, l'idée, c'est pas de se dire, voilà, on fait quelque chose d'innovant, c'est plutôt, voilà, cette singularité qui est, voilà, mon univers et un peu ce qui m'appelle. Je vais essayer de faire naître de ça des formes nouvelles et créer un espace-temps où il est possible de travailler, parce que c'est un travail qui nécessite un temps long, qui va complètement à contre-courant de notre époque. Et voilà, c'est vraiment cette place que je me bats pour ça. Et croyez-moi, c'était pas facile, parce que les enfants indépendants, voilà, ont la vie dure, comme d'ailleurs pas du tout que nous. Mais c'est vrai qu'on est les plus précaires dans l'existence, enfin, par rapport à notre structuration. C'est vrai que je sais pourquoi je me bats, et effectivement, je me bats tous les jours.
Pourquoi avoir choisi Stéphane Degout, Othmane Louati et toutes les personnes qui ont créé ce projet? Comment s'est créée cette symbiose?
Alors, effectivement, c'est quelque chose qui s'articule en. Enfin, il y a plusieurs points, je dirais. En fait, Stéphane, c'est un grand défenseur de la mélodie française. Et parmi les grands chanteurs d'aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, vous voyez, de défendre la mélodie française, le sens aussi, le fait de chanter. Et qu'on comprenne aussi ce qui est chanté, et de rencontrer Stéphane et de parler avec lui, je me suis dit que c'était la bonne personne pour ce projet, parce qu'effectivement, il faut quelqu'un qui a envie de porter un nouveau texte, une nouvelle œuvre. Donc c'était pour moi assez évident que ce soit Stéphane. Concernant Hauptmann, Hauptmann, il a écrit pour nous une œuvre qui s'appelle Nuit, et qui est notre première œuvre qu'on a enregistrée avec l'ensemble en 2022. Et donc voilà, c'est un peu aussi un fil conducteur d'une collaboration. Ottoman est aussi très sensible aux mots, très sensible à la musique française. Donc c'était aussi voilà, quelque chose en fait, on va dire, d'évident pour moi. Et quant à l'équipe artistique, l'élimination est un ensemble à géométrie variable. Donc on a des projets très très différents les uns des autres. Vous voyez, on a fait un opéra de chambre où on était 12 sur scène. On a un projet autour des variations Goldberg où on est en trio à cordes avec un synthétiseur. Voilà, on a été aussi en formation trio à cordes, clavecin et accordéon. Donc effectivement, les musiciens ne sont pas toujours les mêmes puisque les instruments ne sont pas toujours les mêmes. Mais en fait, moi, je fonctionne vraiment sur évidemment une grande qualité musicale, mais au final, aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui jouent très bien que c'est même plus un sujet. Évidemment, ça fait partie de mes critères, mais parmi les personnes qui jouent très bien, en fait, je choisis, et aussi ces personnes me choisissent, hein, parce que c'est réciproque, je pense, des personnes qui sont sensibles à ma démarche et qui veulent s'investir dans quelque chose d'exigeant
Et qui
et
a du
qui prend
sens.
plus de temps. Oui, voilà.
C'est vraiment, oui, c'est chacun apporte sa pierre à l'édifice, mais toujours
Exactement.
avec une ligne directrice qui donne du sens au projet. En parlant de briller d'étoiles, je pense à Othman Louati, étoile montante de la musique française contemporaine. Parlons un peu de lui. Qu'est-ce qui vous a convaincu? On l'a un petit peu compris dans l'entretien, mais qu'est-ce qui a fini de vous convaincre en disant c'est lui, il me le faut pour ce projet?
Justement, ça s'est un petit peu imposé à moi
Une
comme une
évidence.
évidence. Oui, voilà, c'est ça. C'est justement, je fonctionne pas comme il me faut ci, il me faut ça. C'est plutôt, vous voyez, moi
C'était une évidence.
j'ai un peu un cerveau qui fonctionne en constellation, c'est-à-dire que j'ai un peu tout le temps en même temps, c'est-à-dire tous les gens que je connais, les autres que je voilà, ou les choses que j'ai envie de faire sont un peu là en permanence. Et parfois là, je crée des petites je sais pas comment on pourrait dire ça, mais des petits amas d'étoiles à un endroit, et en fait, ça va donner naissance à quelque chose. Donc, pour moi, vraiment, au fil des rencontres, en fait, j'ai juste réuni ces personnes-là. Donc, c'était pas, enfin, j'arrive pas à dissocier une personne en particulier. Voilà, c'est vraiment une sorte de réunion de personnalités différentes, et effectivement, bah, normal, et c'est normal dans une création. Il y a, en fait, on ne sait jamais à quoi on va arriver. Donc, il y a un chemin, il y a des doutes, il y a toujours un temps où on se demande si on a bien fait, parce que ça m'est arrivé à chaque projet et c'est normal, et d'ailleurs, c'est plutôt bon signe. Vous voyez, et ça participe aussi de ce chemin intérieur de l'artiste, c'est-à-dire que si on est satisfait, on peut être content et fier de ce qu'on a fait, mais l'idée d'être satisfait en disant, bon, bah, c'est bon. J'ai réuni les ingrédients, maintenant on va mélanger et ce sera bien. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. En fait, je me mets en jeu aussi à chaque projet. Donc, c'est pas de tout repos, mais c'est ce qui donne le sel de la vie pour moi, en tout cas.
Aurélie Alexandre Dalbronn, vous nous avez créé une nouvelle constellation qui s'appelle l'amour, la mer, alors aujourd'hui.
Exactement.
Est-ce que vous avez plus le trac s'agissant d'une première mondiale?
Alors, je vais vous dire, en tant que directrice artistique, oui, parce que voilà, c'est normal. Après, en tant que violoncelliste, je suis simplement très contente. Enfin, c'est vraiment l'idée et très émue aussi. Voilà, c'est plutôt dans l'émotion, le trac, pas vraiment en fait. Mais après, de toute façon, mon cerveau de directrice artistique, je le dépose en bas de la scène, donc il n'y a pas de souci.
Parlons des questions qui fâchent, j'allais dire, pas vraiment, mais on l'a un petit peu abordé en filigrane de cette interview. Créer aujourd'hui, c'est aussi créer dans un monde qui va vite et qui est traversé par les crises, les conflits, les inquiétudes. Est-ce que cela change votre manière de faire de la musique ou pas du tout?
Ah bah si, complètement. C'est même un peu moi, enfin pas une, enfin c'est une de mes obsessions, parce que souvent je réinterroge voilà ma place et le sens de ce que je fais quand je vois tout ce qui se passe autour de moi. Je trouve qu'il faut, enfin faut être soi, enfin quoi, un autre type d'humain que moi pour rester juste à ce qu'on fait, complètement déconnecté de ça. Je trouve que c'est impossible. Enfin voilà, c'est vraiment un. Après, il faut se protéger parce que sinon, en fait, on se replie sur soi et on ne fait plus rien. Donc, je trouve ça. En fait, c'est comme une exigence d'être toujours plus actif et plus fort, en fait, dans ce qu'on fait. Parce que c'est, en fait, simplement, c'est notre seul moyen de dire non à ça. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je ne vais pas m'engager dans une ONG, je ne vais pas manifester dans la rue parce qu'en fait ce n'est pas mon essence d'être, c'est pas ce que je suis. Mais par contre, moi je suis une artiste, je fais ces choses dont je vous ai parlé et je mets toute mon énergie en fait à créer des choses voilà qui sont belles mais au sens voilà qui sont tournées vers la lumière, vers la création, vers le partage, vers le respect, vers la paix. Et après toutes ces choses accumulées, donc évidemment il y a énormément d'autres personnes qui le font, bah c'est une sorte de rempart contre l'ignominie, on va dire, et le délitement, et c'est un peu un devoir qu'on a. On a créé des œuvres qui avaient un rapport direct avec des sujets très politiques, et c'est des projets qui nous sont tombés dessus, qu'on n'a pas choisi. Là, notre prochain projet qui s'appelle Des travaux et des jours, que la compositrice Diana So, pour laquelle la compositrice Diana So va écrire la musique, elle parle du rapport à la terre, elle parle du rapport à la nature, donc c'est évidemment quelque chose,
très
je ne vais pas
important.
ouvrir le dessin parce que ce serait inutile, mais qui nous touche directement toutes les hommes et toutes les femmes sur terre. On a créé un opéra de chambre qui s'appelle Le Jardin d'Afrique et qui parle toujours d'ailleurs d'un cimetière œcuménique pour migrants en Tunisie. Voilà,
D'accord.
on a créé cette œuvre-là parce que le hasard a fait que je suis allée là-bas justement avec Isabelle Jenka aussi, et on a écrit un livre sur cet endroit qui est une demeure, qui a une demeure d'éternité pour des gens qui sont morts anonymement rejetés par les flots à un endroit et qui étaient mis dans une décharge, et un homme a dit non à ça, a construit un jardin, un cimetière, un jardin de paradis au milieu du désert. Juste pour honorer ces morts-là. Et nous, on a mis en musique cette chose-là. Et c'est pas pour faire un discours moralisateur, c'est pour montrer qu'il y a des gens qui disent non aussi à l'indifférence. Donc, en fait, à notre hauteur d'artiste, avec aussi notre sensibilité, pour moi, c'est une sorte de sentiment d'urgence permanent, en fait, de faire toujours plus de choses. Évidemment, pas dans la vitesse, parce que comme vous l'avez dit, c'est un monde qui va trop vite. Et l'idée, c'est de s'inscrire dans un plan plus long. C'est pour ça que j'aime bien parler d'atelier de création quand je parle de mon ensemble. L'idée, c'est d'avoir le temps de creuser les choses, voilà, de chercher. Donc c'est très, très difficile parce qu'on a de moins en moins de financement, etc. Mais en tout cas, c'est une vision du travail. Parce que comme on joue tous très bien, on pourrait aussi travailler... se voir une demi-journée et finalement ça marcherait plus ou moins parce que on a le métier, mais c'est vraiment pas du tout ça que je cherche. Voilà, c'est vraiment s'inscrire à la fois contre son époque, mais en même temps pour les gens qui l'habitent.
Bien sûr, et c'est encore un signe d'espoir que vous nous donnez aujourd'hui, Aurélie Alexandre Dalbronne. Pensez-vous, je pense que oui, vous le pensez, mais qu'une œuvre peut encore transformer notre regard sur le monde et peut changer les choses?
Ah mais complètement. Et moi ça m'arrive, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai envie de dire je fais encore ce que je fais, sinon je sais pas si je serai encore là, dans le sens où moi j'ai besoin d'avoir du sens à ce que je fais, et c'est en partageant ça avec les publics, enfin tous les gens qui viennent nous écouter, les interactions spontanées qu'on peut avoir. L'ensemble, il a aussi une démarche d'aller jouer dans l'espace public, un petit peu à nu comme ça, d'aller rencontrer des gens qui sont très très loin et de la création contemporaine et de la musique savante occidentale tout court, ne nous mentons pas. Et en fait, ces échanges-là prouvent en fait que le lien est toujours là et que ce qu'on fait change la face du monde en fait.
Il n'y a pas d'entre-soi, ça s'adresse à tout le monde et c'est ça qui est important.
Eh ben exactement, et c'est le contraire, parce que l'entre-soi finalement n'aboutit qu'à une forme de nécrose, et à la fois pour les gens qui sont à l'extérieur ça n'a aucune portée, et pour ceux qui sont à l'extérieur, je veux dire, et ceux qui sont à l'intérieur finalement finissent par se... Enfin moi j'ai vraiment l'idée du moisi, quoi. Il y a vraiment ça, il faut que ça bouge, il faut que ça soit remis en question. Donc l'idée c'est de garder notre intégrité musicale, parce que il faut pas non plus tout dire ah bah tout ça c'est facile, ce sera immédiat, vous allez voir, tac tac, non pas du tout. C'est on a notre exigence, on a notre savoir-faire, on a mis 25 ans à l'acquérir, voilà, on travaille énormément, donc on vous propose ça, on vous propose une invitation au voyage ce soir-là, et après libre à vous de le recevoir, mais on prend pas non plus les gens de haut, parce qu'en fait je vois pas pourquoi on les prendrait de haut, en fait c'est pas parce qu'on est sur une estrade que voilà, vous voyez ce que je veux dire, on est sur une estrade pour que tout le monde nous voit, mais c'est tout en fait. Il y a vraiment cette idée Nous, on fait ça, c'est notre métier et on vous offre ça ce soir-là. Voilà, vraiment, c'est vraiment comme ça que je vois les choses.
D'accord, alors justement, sans dévoiler toute la surprise à nos auditeurs, mais quel voyage propose L'Amour la mer? Avec quelle émotion aimeriez-vous que le public sorte de cette soirée?
Préférerais laisser à chaque personne son émotion. Ce que je pourrais simplement rajouter, c'est j'ai envie d'inviter à, voilà, sans du tout plagier Baudelaire, c'est vraiment une invitation au voyage que j'aimerais proposer, c'est-à-dire de laisser, voilà, tout, de lâcher prise sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on sait, et de se laisser embarquer. C'est quand même un voyage à la fois de siècle, mais aussi d'esthétique. On reste les mêmes instrumentistes. Voilà, on est à chaque fois quintette avec piano pour les deux œuvres. Et je vais bien préciser à la personne qui présentera le concert qu'il ne faut surtout pas applaudir entre les deux œuvres, parce que justement, le pont, il va s'ériger dans le silence entre ces deux œuvres-là. Et vraiment, l'idée, c'est de se laisser aller à ça. Et voilà, je leur souhaite un bon voyage et j'ai hâte d'avoir justement le retour sur leurs émotions le cas échéant.
Chers auditeurs, nul doute que vous allez adorer cette soirée. Merci beaucoup Aurélie Alexandre Dalbronn d'avoir partagé avec nous les coulisses de cette aventure. Nous rappelons que la première mondiale de L'Amour la mer sera donnée le 1er août prochain dans le cadre de la 46e édition du Festival de Saint-Céré qui a pour thème cette année la voix. Un rendez-vous où le patrimoine continue de rencontrer la création vivante. Merci beaucoup.
Merci.